Chapitre 10. Maître Servet, depuis 24 ans que j'habite cette maison, vous avez été pour moi un bon voisin, de commerce agréable et toujours prompt à rendre ces services que l'on doit à qui habite à sa porte. Hans Servet, commerçant enrichi et retiré des affaires, état qui souvent vont de pair, le second suivant le premier, habitait la rue Notre-Dame, une maison que son épouse tenait en héritage. La digne femme était passablement fantasque, voire même un peu toquée en certaines périodes, spécialement au printemps et au temps de grand vent. Cette douce folie, qu'on attribuait généralement au proche cousinage de ses défunts parents, nés Bertrand et Bertrand, était d'un caractère joyeux qui la rendait presque aimable, plus plaisante en tout cas que nombre de gens plus sensés qu'elle, mais ennuyeux. Quant au voisin lui-même, qui avançait en âge avec à tout le moins 4 lustres d'avance sur son épouse, c'était un brave homme, sans doute un peu borné pour ceux qui excédaient le domaine du négoce, mais serviable et enjoué. Révérendissime voisin, cet éloge me flatte. Sachez le prix que j'attache à un voisinage aussi distingué que le vôtre. Monsieur, laissez, je vous en prie, cette distinction aux cardinaux dont, heureusement, je ne suis pas. « Bon voisin, dis-je donc, vous faites parfois bombance avec une liesse un peu fracassante et dont l'épaisseur de nos murs laisse passer l'écho. C'est que ma femme et moi sommes d'un naturel guilleret et que notre Seigneur lui-même a changé l'eau en vin et non l'inverse. Certes, et je ne vous le reproche pas, foin de ces gens tristes comme leur bon ennemi. Sans doute aussi fûtes-vous un peu mêle-tout et fouille au pot. N'y voyez que l'intérêt que je vous ai toujours porté et l'inquiétude que j'ai de votre contentement. Maître Servet, donc, j'ai un petit service à vous demander, qui sera sans doute l'un des derniers que vous pourrez me rendre. Qu'à Dieu ne plaise, disposez de moi comme il vous plaira. Je vous serai donc obligé si vous alliez quérir séant maître Acarin. Le notaire ? Lui-même, je vous tiens pour un homme avisé, même si vous êtes disciple d'Épicure, je compte la probité au nombre de vos vertus, et je vous veux donc faire mon exécuteur testamentaire. Je ne suis disciple de personne, et je ne connais point celui dont vous parlez, mais sous cette réserve, je suis à votre service. C'est là une mission dont je me suis acquitté heureusement en l'une ou l'autre occasion, et je n'y regrettais qu'une chose, c'est que mes commettants, Dieu et leur âme, n'aient pu revenir pour m'en donner quitus. Je l'ai su aussi, vous ai-je choisi dans ce dessein, d'autant que mes petites affaires ne sont pas bien compliquées. À moi aussi, il est arrivé jadis de remplir cet office pour l'un ou l'autre de mes collègues. Je sais le souci que cela peut donner et vous en serez récompensé. Je suis tout à vous. Quand donc voudriez-vous voir le tabellion ? S'il lui plaît, ainsi qu'à vous, je le verrai ici après le dîner. Hans Servet tourna donc les talons et quitta, avec la dignité que requéraient ses devoirs nouveaux, la cuisine où on l'avait reçu. La maîtresse des lieux s'apprêtait à monter sur ses grands chevaux, elle qui s'était agitée, la larme à l'œil tournant en rond pendant tout l'entretien, sans oser intervenir. Le vieil homme coupa court. « Antoinette, c'est le notaire que j'ai appelé, et pointe encore le prêtre. Garde tes pleurs pour quand je n'y serai plus. Je me sens bien, je vais en profiter pour mettre mes affaires en ordre. Qui sait si je le pourrai demain. Jeanne n'est plus là, pas plus que son frère, profitons-en. » Soit que l'adage est force de loi naturelle qui veut qu'un bienfait ne vienne jamais seul, soit que j'eusse mésestimé jusque-là la dignité ecclésiastique, je reçus dès l'année suivante le bénéfice du canonicat d'Ivoix, qui était resté vacant par-delà depuis la mort de Rogier. Cette prébende est royale, on en pouvait donc percevoir les gros fruits sans devoir résider, ce qui en mon cas était plutôt indiqué. Que je sache, feu, mon maître n'avait même jamais mis les pieds à ce chapitre dont il était chanoine, négligence où je ne le suivis point comme je compterais. Ce revenu venant par-dessus les autres, j'appréciais à l'aune où l'on estime ses aises une fois ses besoins satisfaits. Ainsi donc, les fidèles de toute la chrétienté s'affairaient maintenant à me nourrir, depuis ceux de la grande Cordoba dans la lointaine Andalousie, jusqu'aux plus obscurs paroissiens d'Ivoix, village des Ardennes, dont j'ignorais jusqu'à l'existence avant d'en être fait chanoine. J'achevais de faire mon beurre à la faveur d'un héritage qui m'échut à la mort de Jean Carreau. C'était un chantre venu en Espagne parmi les derniers et qui quitta donc prématurément ce royaume par un autre chemin que celui qu'il avait pris pour entrer. Nous n'étions guère intimes, mais il me vouait apparemment quelque amitié, ainsi qu'à trois autres collègues aussi surpris que moi de recevoir une part de son bien. Si je ne dirigeais nulle chapelle et n'en devais de ma vie, contrairement à Nicolas Dupont, diriger aucune, je devins cependant, en cette faste époque de ma vie, vice-maître de la principale du royaume, ce qui n'est pas peu de chose. Géry de Guercet m'avait en effet soudain décidé, après 20 années passées en Espagne, de rentrer dans sa Flandre natale, qui, sous le gouvernement des archiducs, semblait enfin pacifiée. Je reçus donc le titre de teniente, c'est-à-dire de lieutenant. J'étais ainsi le second de Mathieu Romarin, le mieux placé, qui sait, pour lui succéder un jour, Roger lui-même étant à ce grade quand nous étions arrivés en Espagne. Mathieu était le maître incontesté, lui qu'on n'appelait plus que El Capitan. Comme il était sans fierté déplacée ni autorité abusive, nous restions surtout bons camarades, ainsi que nous avions toujours été depuis que, jadis, sur les chemins de l'Espagne, nous avions découvert que nous étions un peu pays. Il me laissa le soin de faire travailler les chantres et les petits chanteurs. Je dirigeais souvent aussi les offices de la chapelle royale, dont le maître est appelé à voyager pour 100 raisons diverses, comme l'achat d'un instrument ou l'engagement de musiciens. Il faut dire que Mathieu composait de plus en plus pour le théâtre, prologues et intermèdes de comédie, ce qui le détournait un peu de sa tâche. La capilla royale avait bien changé depuis le temps où j'y étais entré. La part des Espagnols s'y était fort accrue, surtout parmi les enfants, car on n'avait plus guère recruté de Flamands depuis le passage du siècle. Était-elle devenue moins bonne qu'elle n'était 15 ans auparavant? J'en ai le sentiment, mais tout paraît supérieur aux yeux du souvenir, à l'aune surtout des enchantements du jeune âge. Comme on me voyait plus souvent, ma renommée s'était accrue, et j'étais devenu une figure familière de la cour. Les grands me rendaient mes saluts avec des égards mesurés, certes, mais que l'habit religieux n'aurait suffi à m'assurer. Je continuais à composer, avec moins de flamme cependant, qu'en ce temps où je n'avais à l'esprit que la secrète dédicataire de mes musiques. J'en avais aussi moins le temps, puisque j'étais pris par les charges de la chapelle. Néanmoins, quelques motets que je fis furent appréciés et contribuèrent fort à ma réputation. Mon Scapulis Suis, pour le temps de carême, et un Confitebor Tibi Domine à 8 voix, me valurent plus d'honneur que ce que j'avais pu faire jusque-là. Il est vrai aussi que trop souvent on crie au génie, à celui dont la renommée est faite, quand on méprise les ouvrages, meilleurs peut-être, qu'aura pu faire un inconnu. Pourtant, c'est une pièce bien moins édifiante qui me valut le plus de succès et donna même alors quelques vogues au nom de Dufon. J'ai dit que Philippe III passait pour le meilleur danseur de son temps. On donnait donc à Valladolid davantage de bals que de comédies, et il n'est duc ni prince qui ne mit un point d'honneur à en régaler la cour. On avait adopté l'usage du peuple de Barcelone, et on ne clôturait plus un bal sans que toute la noblesse ne formât un cercle, se prenant par la main pour danser la sardane. Même la sarabande trouvait quelques vogues sulfureuses, cette danse impudique que condamnait l'Église et qu'au siècle précédent on ne pouvait mener sans risquer le cachot. Il me vint à l'idée d'écrire une danse pour le bal offert à la naissance de l'infant Philippe, celui-là même qu'on allait nommer prince des Asturies et qui règne aujourd'hui glorieusement 4e du nom, 3e dont je fus sujet. Je n'osais faire une sarabande à proprement parler, mais troussais une petite chose en 3 temps qui en avait l'allure. Cette danse plut pour sa grâce, mais surtout pour cette façon de pied donné qu'elle l'était aux interdits du règne précédent. Poussé par son ministre, le roi mettait un point d'honneur à gouverner au rebours de son père. Cette fausse sarabande lui en donnait une ingénieuse occasion. On prit le lieutenant de la chapelle pour un fin politique quand il n'avait pas pensé si loin. Il ne cracha cependant pas sur les 12 réaux que lui donna sa majesté et se laissa chatouiller l'amour-propre de ce surcroît d'estime publique comme eût fait tout autre à sa place. Je me rendis compte ainsi de la valeur bien hasardeuse des jugements de ce monde. Bien qu'il soit infiniment plus facile de faire une danse qu'un requiem à 8 parties, on en aurait donc plus de prix. Sans doute vaut-il mieux participer aux joies du monde qu'à ses peines. Ce devait être aussi l'opinion de Mathieu, qui donnait toujours plus de musique au théâtre et moins aux églises. Un maître de chapelle à la comédie et son lieutenant à la danse, décidément, quelque chose avait changé dans le royaume. On avait beau se souvenir déjà du règne de Philippe II comme d'un âge d'or, célébrer sa mémoire en 1000 écrits, Lope de Vega lui-même ne pouvait plus écrire une pièce sans l'y faire figurer en parangon de justice. N'empêche, dans la trame des jours, il était bien oublié. Il se produisit en cette année 1605 un prodige que l'on tient généralement pour signe de grand malheur, ce qui est selon moi sotte superstition, si j'en crois le compte des événements heureux qui m'advinrent alors. Le soleil fut assez soudainement caché par la lune qu'il croisait dans sa course et la nuit vint au milieu de la journée sur toute la terre. La chose fut effrayante surtout par le silence que firent partout bêtes et gens. Elle ne dura guère mais frappa les esprits. C'est que l'année précédente déjà, disait-on, une étoile nouvelle était apparue dans le ciel, fort brillante, et n'y était restée qu'un temps avant de s'éteindre. Le peuple retrouva une piété à la mesure de sa frayeur. Jamais on ne vit tant de monde aux prêches, ni on ne se fouetta avec tant d'ardeur. La chose ne m'émut guère, et d'ailleurs la crainte du jugement dernier n'empêcha personne de profiter du festin offert au grand amiral d'Angleterre. Il dépassa tout ce que j'ai pu voir en ma vie, et fut d'autant plus remarquable que l'Espagne est un pays où l'on mange peu et simplement. On servit 1200 plats de viande et de poisson, sans compter les desserts, et il y en eut tant qu'on laissa le peuple s'empiffrer à discrétion. Ces merveilles au firmament furent aussi l'occasion pour les gens de condition de s'entretenir des mystères de la mécanique céleste, d'autant qu'il se disait que l'éclipse avait été prévue par les astronomes qui n'en avaient rien dit de peur de passer pour sorciers. C'est que ces matières sentent un peu le bûcher et il faut de l'audace pour les défendre comme fit jadis un Polonais dont j'ai oublié le nom que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse comme l'indique l'évidence. On parle davantage de ces choses maintenant qu'on ne le faisait de ce temps. C'est que ces Galileo Galilei et Kepler, dont il est en question aujourd'hui, avaient alors à peu près mon âge et n'avaient encore rien écrit de leurs pensées. On dit aussi que les jésuites ne sont pas les derniers à observer le ciel avec de grandes lunettes, mais on ne sait trop leur opinion sur tout cela, car ils laissent condamner par d'autres toutes les opinions hérétiques sans jamais laisser deviner ce qu'eux-mêmes peuvent en penser. Je ne connais rien à ces choses qui sont décidément plus embrouillées que celles de la musique. J'avoue que je n'ai jamais tenu le compte des étoiles au firmament et qu'il pourrait s'y allumer ou éteindre une douzaine sans que je m'en aperçoive. Il n'empêche que tout cela m'inquiète un peu et qu'à coup sûr je courrais me confesser si le soleil venait un jour aussi à s'éteindre ce qu'à Dieu ne plaise. J'informais régulièrement ma sœur Antoinette de tous les événements de ma vie, sous réserve bien sûr des plus secrets, qu'elle ne saura qu'en lisant ces lignes quand je n'y serai plus. C'est que je suis de naturel réservé, j'ai toujours eu d'égales réticences à dévoiler mon cœur qu'à montrer d'autres parties moins nobles de mon anatomie. Mes progrès à la chapelle l'émurent moins que mon entrée dans les ordres. Sacrifiant en cela à la mode espagnole, elle tenait en effet l'état ecclésiastique pour supérieur aux autres, et je devinais bien qu'elle en tirait quelque fierté auprès des commerces voisines. Elle s'étonna qu'un prêtre pût faire des danses pour les bals de la cour, et eut la bonté de me conseiller de me confiner à composer messes et psaumes, car il ne sied pas qu'un curé joue ainsi aux ménestrels. En même temps, elle me racontait ce qui se faisait aux Pays-Bas, ou du moins ce qu'elle en entendait. Elle croyait m'apprendre de grandes nouvelles, mais je les savais généralement avant et mieux qu'elle. Je ne lui en disais rien, bien sûr, ne voulant pas la frustrer de ce plaisir, ni surtout me priver de ses commentaires plus pittoresques que ceux de la cour. Les grands personnages que l'on connut aux premières années de ce siècle eurent ainsi les honneurs de sa plume. Ses avis, qui n'étaient autres somme toute que ceux du bon peuple, se trouvaient souvent confirmés en haut lieu. Elle se moquait ainsi de Mendoza, qu'elle appelait « couillou en dentelle ». Ce capitaine, en effet, n'avait de génie qu'à son propre jugement, qu'il passait aux yeux des autres pour avoir passablement borné. Il avait commencé par hasarder sur le Rhin les troupes de l'archiduc, qui ne lui avait rien demandé, avant d'être fait prisonnier par les Hollandais à Nieuport. Aussi relâché, 2 ans plus tard, il avait longuement et vainement mené le siège d'Ostende. Je vis ce Mendoza en Espagne, où le roi avait fini par le rappeler, et là aussi, chacun s'engossait. Comme il était fort pieux pour un militaire, on ne l'appelait que « le grand capitaine au rosaire ». Il dut quitter la cour, où l'on rit encore quand il fut mis en prison pour dette. Ma sœur tenait par contre en grande estime Spinola, Ambroise ou Ambrogio de son petit nom, selon qu'on le nomme en notre langue ou en la sienne, qui est de Gênes. Banquier de son état, il avait recruté à ses frais une armée et s'était également révélé audacieux capitaine et habile diplomate. Le peuple le tenait pour un grand homme, car il avait emporté une victoire rapide et complète au siège d'Ostende qui, avant lui, s'éternisait. Philippe III, qui avait plusieurs fois déjà montré l'estime et la confiance qu'il lui portait, lui donna en 1605 le commandement des troupes espagnoles des Pays-Bas. Le grand Spinola est mort, voici peu, tué à je ne sais quelle bataille en Italie. On dit qu'il avait entrepris cette campagne par dépit de n'avoir pu épouser Geneviève d'Urfé, dont il était fort épris, malgré la soixantaine sonnée. Ce trait me le rend plus estimable encore. Cette dame était à la fois nièce du fameux poète français et veuve du prince de Croix, grand d'Espagne, assassiné par un page qu'il avait injustement battu. Il est un homme cependant, et non des moindres, sur lequel le jugement de ma sœur et celui du roi différaient. C'était l'archiduc Albert. Il était aimé de ses sujets par ce principe qui fait que dans l'affection du peuple pour ses princes, le cœur n'est pas loin de l'estomac. Albert, précisément, tenait table ouverte, faisant volontiers bombance à la mode flamande, comme jadis l'empereur Charles, mais surtout la table de ses sujets était aujourd'hui communément plus garnie qu'elle ne l'avait été pendant les guerres et famines qui faisaient l'ordinaire du siècle précédent. Si on l'aimait aux Pays-Bas, on l'estimait moins en Espagne, où l'on semblait ne vouloir lui éviter aucun affront. Après l'administration des fonds envoyés par le roi, on lui avait retiré jusqu'au commandement de l'armée, confié à Spinola. On jasait surtout, et avec peu de bienveillance, sur ses velléités à élever ses états en royaume. C'est qu'Albert osa même un temps ajouter la couronne de ses armes à je ne sais quelle boucle qu'il a changée d'archiducal en royal. Ses prétentions étaient hors de saison, car les souverains étrangers en référaient toujours à l'Espagne, pour les affaires des Pays-Bas, même les plus ordinaires, et il se disait que le roi de France exigeait d'Albert qu'il l'appelât monseigneur, ce qui n'est pas d'usage entre souverains. Malgré la colère du roi Philippe, cette ambition ne faiblissait point, et l'archiduc osa renvoyer à Rome le marquis de Mené pour plaider sa cause auprès du pape. Sans le moquer comme Mendoza, on souriait d'un air entendu quand il était question de sa valeur militaire. Il avait bien fait empailler le cheval qu'une balle avait tué sous lui à Nieuport, mais ce procédé curieux, s'il rappelait les périls courus au feu, ne faisait pas oublier la sévérité de la défaite, ni surtout l'image d'un prince en fuite, errant seul dans les dunes comme une âme en peine. Si l'archiduc était rentré en triomphateur à Ostende le 3 octobre 1604, nul n'ignorait que la victoire avait été forcée par Spinola et par lui seul. Le bruit courait à Valladolid que celui-ci avait reçu, avec son commandement, l'ordre secret de sa majesté de reprendre le pouvoir en son nom si par malheur Isabelle venait à trépasser la première. Il se disait aussi que celle-ci avait fait une fausse couche, ce qui était étonnant. La politique de l'Espagne reposait sur le dénouement des hauts de choses de l'archiduc, et il n'y avait pas plus de raison de les supposer repeuplés que de mettre en doute la vertu de l'infante. Vois-tu, il y a trois moyens de faire avouer les suspects, la garula, la porra et la toca. Mais encore, la garula est une poulie qui soulève le prévenu par les mains, ou mieux par les doigts. On laisse un temps se balancer en l'air, puis on le fait descendre, tantôt par de bonnes secousses, tantôt d'un seul coup, pour qu'il profite pleinement de toutes les ressources de la chose. La porra est un chevalet sur lequel on l'attache au moyen de cordes, que l'on serre peu à peu en les tordant, et enfin la toca, c'est l'entonnoir qu'on lui met en bouche pour le gaver d'eau. Ce tourment m'a l'air moins cruel. Ne crois pas cela, on y verse pinte après pinte, le supplicié s'emplit comme une outre, l'estomac lui écrase le ventre, et tous les os le font souffrir comme s'ils allaient éclater. Et les suspects ont droit aux trois traitements s'ils n'avouent pas de suite? Pas nécessairement, tout cela est rigoureusement codifié. On ne tourmente pas un faux converti comme un sodomite, ni un illuminé comme un mort. Même l'épaisseur des cordes ou la quantité d'eau sont calculées selon l'endurance du suspect. Qui donc, au cours de l'été 1606, pouvait-il m'entretenir avec tant de science des façons qu'à l'Inquisition pour rendre disert les plus taiseux? Ce n'était autre que Fra Hieronimo dans le grand couvent des franciscains de Madrid. La cour et le gouvernement étaient en effet rentrés en cette ville. Cela s'était fait avec le même embarras que 5 ans plus tôt quand ils l'avaient quittée, et sans qu'on ait pu s'expliquer davantage qu'alors le bon vouloir du roi. J'en étais plutôt heureux, car le joyeux mouvement et la commodité des grands palais madrilènes m'avaient manqué. Valladolid n'avait donc été qu'une capitale éphémère, tête décidément trop fragile pour le corps immense qui était le plus grand royaume de la terre. En jetant un dernier regard sur cette ville, j'avais cependant le cœur serré, le sentiment d'y laisser une part de moi-même, de ma jeunesse, de mes illusions. C'était à peine si Fray Jeronimo avait remarqué que j'étais prêtre à présent. Sans doute la chose pour lui allait-elle de soi. Il semblait plus préoccupé que jamais, j'allais dire tourmenté, mais il n'avait rien d'un homme tourmenté, plus soucieux donc de la rigueur de l'Inquisition et de la chasse qu'on faisait dans le royaume aux morts et aux juifs. Je me souvenais des explications qu'il nous en donnait jadis, du sentiment critique qu'il affichait à propos de tout cela, non sans imprudence, car nous étions encore presque des enfants. Philippe III avait pour ces choses autant de zèle que son père, voire davantage, ce qui n'incitait pas le franciscain à l'indulgence. Du moins, l'ancien roi était-il grand par certains traits de son caractère, s'il était petit par d'autres, celui-ci est petit en tout. Ce n'est qu'une girouette aux mains de ses ministres. D'ailleurs, tu l'as connu et vu davantage que moi. Lorsqu'il lui vient une idée pour son propre compte, ou plutôt le besoin d'exercer sa puissance, ce n'est jamais que pour faire des malheureux. Durant des siècles, les morts des territoires reconquis avaient vécu tranquilles. Ils pouvaient conserver la foi de Mahomet et vivaient en paix avec les chrétiens, cultivant la terre et faisant 1000 métiers utiles que ces derniers ne pratiquaient plus. Même quand les rois Ferdinand et Isabelle avaient pris Grenade et vaincu les Maures définitivement, ils leur avaient promis de respecter leur religion. Ils étaient cependant revenus sur leurs paroles, leur laissant le choix de recevoir le baptême ou de quitter le royaume. La plupart étaient restés et on avait nommé Morisques ses convertis. Cependant, ils gardaient souvent leur foi en secret, comme d'ailleurs leurs coutumes et leur langue. C'est alors que Philippe II avait ordonné de les disperser dans le pays pour les mêler aux chrétiens et leur faire perdre la force qui tenait à leur nombre. Les Mauresques, cependant, se regroupaient toujours, occupant parfois des villages entiers de provinces où ils étaient auparavant inconnus. C'est qu'ils avaient beaucoup plus d'enfants que les chrétiens, n'ayant parmi eux ni prêtres ni soldats. S'ils faisaient les gestes de la vraie religion, c'était par peur de l'Inquisition, mais jamais on ne voyait un prêtre au chevet de leurs malades. Par sortilège, ou plutôt par malice, tous mouraient brusquement, sans avoir pu réclamer les sacrements. Bref, il ne semblait y avoir pour les réduire d'autres remèdes que de les chasser tous du royaume. C'était là du reste une extrémité dont on parlait de plus en plus ouvertement. Fray Jeronimo s'emportait à cette idée, tant par humanité et pour le bien de l'Espagne à laquelle les morts étaient nécessaires, que par religion même. Il considérait évidemment la religion de Mahomet comme fausse et hérétique, mais entendait en convertir les adeptes par la douceur et la persuasion. « C'est plus grande vertu, me dit-il, de convertir le mécréant et d'instruire le vicieux que de les chasser de leur maison. » D'ailleurs, ce n'est pas seulement question de religion, car un bon politique ne doit pas user de châtiments si universels que tout l'État en sorte plus affaibli qu'amendé. Ces idées éveillaient en moi un écho plutôt favorable. J'ai déjà dit ce que m'inspiraient les façons de l'Inquisition. Ce n'était point tant l'intransigeante défense de la foi, ni même la sévérité des procédés qui me répugnaient que ce climat qu'elle entretenait, climat de terreur et d'imprécation propre à faire perdre au meilleur tout sens commun. Je pensais encore souvent à la fin de mon maître Rogier, sans savoir ce qu'elle devait à ses opinions sur la foi, à ses rapports avec un ministre maudit, ou à tout cela à la fois. Le fossé du politique au religieux est vague et changeant. L'un sert de ressort à l'autre. La procession lugubre des autodafés n'est-elle pas conduite à la fois par les autorités civiles et le chapitre des cathédrales? Les étendards qu'on y porte ne mêlent-ils pas sur le damas cramoisi l'écusson noir et blanc de la Sainte Inquisition et les armes royales brodées d'or? D'ailleurs, pour les choses de la religion, les plus sévères ne sont pas ceux qu'on pense, car les châtiments qu'inflige le Saint-Office sont souvent plus modérés que ceux de la justice ordinaire. Les juges ecclésiastiques font la part du doute et du repentir quand les juges séculiers participent plus volontiers de la haine populaire. Il était une autre raison moins avouable à ce dessein de chasser tous les morts. Ces gens étaient industrieux et avaient souvent quelques biens. Le leur confisquer, car on ne pensait pas les laisser embarquer avec leur or, et ni encore moins leur acheter leurs terres, emplirait certainement pour longtemps les caisses du royaume plus désespérément vides que jamais. Le délabrement des finances était tel qu'on allait se résoudre bientôt à déclarer la banqueroute, comme au pire temps du règne précédent. Mais contre cette raison aussi, le franciscain s'insurgeait. Le calcul est mauvais. On manque déjà d'artisans en Espagne. Plus personne ne veut travailler la terre et on paye un charpentier autant qu'un évêque. La peste a emporté un 500 000 d'hommes. Si on nous retire encore le même nombre et parmi les plus laborieux, nous n'aurons d'autres richesses que celles du passé. Ah, bien sûr, cela fera une belle masse d'or et d'argent, mais elle sera vite dépensée par tous ces profiteurs de la cour et il n'y aura plus alors aucun mouton à tondre. Je n'avais guère l'idée des moyens que Fray Jerónimo et ceux de son opinion pouvaient employer pour arriver à leur fin et contrer ses desseins. Je n'imaginais pas mon ami aller au palais, plaider la cause des hérétiques, ni encore moins prendre les armes pour défendre les morts. Je lui posai un jour la question. « Voyons, Jean, la chose publique est infiniment plus subtile. Les opinions ne sont pas si tranchées, tout n'est pas blanc ou noir. Le parti le plus nombreux est celui des gens sans avis qui suivront la cause du plus fort et se mettront prudemment dans le sens du vent. Le tout est de faire tourner celui-ci dans le bon sens. Mais comment ? De mille manières. Par la raison, d'abord, car les arguments ne manquent pas dans l'Évangile ou de l'intérêt même de l'Espagne. » Aussi en affaiblissant le parti adverse. Les hommes sont pécheurs, quand on connaît leurs faiblesses, on peut les exploiter en les mettant au jour, ou au contraire, en les favorisant secrètement. Il est bien des ressorts à l'âme humaine, mais avec la soif de l'or, le goût des femmes et l'ivresse du pouvoir, on n'est pas loin d'en avoir fait le tour. Mais tout cela est bien près, il me semble, du chantage et de la corruption. Sont-ce là des procédés bien chrétiens ? Ad augusta per angusta, comme disent les jésuites, il faut parfois des voies bien détournées pour atteindre aux fins les plus élevées. Ces jeux peuvent être dangereux, nous l'avons appris déjà, à nos dépens. Quand cela ? Oh, plus d'une fois. Tiens, par exemple, il y a quelque temps déjà, quand Philippe II ne s'était pas encore assuré le Portugal et que nous ne jugions pas bon qu'il le fît, notre ordre avait laissé courir le bruit que le roi Sébastien n'était pas mort, qu'il était même caché dans une de nos maisons. C'était invention. C'était un coup de dé, manqué comme tu sais, car le roi a vu clair y emporter la partie, aidé en cela par les jésuites qui avaient misé d'emblée sur le bon parti, cela nous a fort affaiblis auprès de la couronne. Parlons-en des jésuites, les modérés ne sont pas chez eux, j'imagine. En ce temps, on parlait encore plus volontiers des jésuistes que des jésuites, comme on dit communément aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas si simple. Il s'en trouve d'opinions diverses, comme chez les dominicains. Même chez nous, tous ne sont pas du même avis. Je ne suis pas aveugle. Nous sommes bien plus nombreux que les jésuites, mais bien moins puissants, en Espagne du moins. Quand ils auront arrêté quel parti sert le mieux leur intérêt, ils le pousseront comme un seul homme, et je ne donnerai pas cher alors de l'opinion adverse. S'ils vont dans le sens que je redoute, beaucoup de sang coulera dans le royaume. Les morisques ont donc les moyens de résister ? Pas de vaincre certainement pas, mais de causer tort, assurément. Quand on a d'autres issues que la mort ou l'exode, on vit de l'énergie du désespoir. C'est aussi à mettre dans la balance. Si une solution aussi extrême semble d'un prix trop cher à payer, on penchera peut-être pour des voies différentes. Mais pour cela, encore une fois, il faudrait que les morisques soient armés, et ils me font plutôt l'effet d'agneaux qu'on mène à l'abattoir. Crois-tu ? Tiens, voici pour te convaincre du contraire une anecdote, comme je pourrais t'en compter 10. Il y a 2 ou 3 ans, un lieutenant recruteur faisait étape dans un bourg de l'Estramadure dont tous les habitants étaient morisques, à l'exception bien sûr du curé. Il logeait ses hommes chez les villageois. Comme tous les soldats du monde ont si peu de scrupules que de vivre dans leur musette, tu sais qu'ils ne se gênent guère pour vivre de rapine. Quelques-uns fouillaient donc la cave de leur hôte quand ils ont trouvé des tombeaux tournés vers le levant. Qui dit tombeau mauresque dit bijou, et nos hommes ont couru chercher leur officier avec l'intention bien arrêtée de s'enrichir avec sa bénédiction. Aussitôt dit, aussitôt fait, on entreprit de faire sauter la maçonnerie à coups de pique, mais de tombeau, point. Sous la chaux, on trouva des caisses pleines d'arquebuses et de balles. Imagine des caches comme celle-là dans tous les villages mauresques, cela promet du plaisir en cas de soulèvement. Et qu'advint-il de ce village ? Ah, les armes firent au moins le bonheur de la compagnie, qui en était fort dépourvue. Le lieutenant fit son rapport au commissaire des guerres, pensant bien recevoir pour mission de passer tout ce monde par le fil de l'épée, ou tout au moins de l'arrêter. Mais voilà, le fonctionnaire en question était précisément pour ces choses d'un parti modéré, et il imposa à l'officier un secret absolu sous le vague prétexte de prendre à son aise les mesures nécessaires. Et l'officier l'a cru? Or, sans doute pas, mais il a fait semblant. Ce n'était pas un sot, et cela lui a permis de se tirer plus tard d'un mauvais pas en s'assurant, par la menace de tout révéler, les appuis nécessaires au jugement d'une mauvaise affaire où il s'était trouvé. Lieutenant recruteur en estramadure, mauvais procès, j'ignorais cet épisode, mais cela ressemblait assez à un personnage de ma connaissance. Ce lieutenant, ce ne serait pas par hasard un certain Contreras, et cette mauvaise affaire, le meurtre de son capitaine, hein, c'est bien ce nom, tu le connais? C'est mon ami. Et je fis au frère mineur le portrait de Contreras qui l'amusa fort. Hieronimo conclut d'un air entendu, « Si cet homme est ton ami, et s'il y a dans ce que tu m'en as dit ne fût-ce qu'un tiers de vérité, cela pourra nous être utile. » Comme on voit, j'avais en tête de plus en plus de choses qui ne touchaient guère à la musique. Si je ne négligeais pas les charges de la chapelle, qui suffisaient à occuper l'essentiel de mes jours, l'ambition me manquait avec le sentiment que je ne pourrais plus guère avancer dans mon métier. Je ne serai jamais capitaine, sauf à voir prématurément mourir Mathieu, qui était d'ailleurs en meilleure santé que moi. J'aurais pu sans doute solliciter la direction de quelque autre chapelle dans le royaume, mais je ne croyais pas qu'être second musicien à la cour fût moins honorable qu'être premier ailleurs. Je ne composais plus guère non plus, ce qui me donna cependant plus mauvaise conscience. Peut-être me reprochera-t-on à l'heure du jugement de n'avoir pas assez fait fructifier les talents de la parabole, ceux que j'avais reçus en dépôt. J'avais bien sûr l'excuse de ma santé défaillante, de cette petitesse d'haleine qui me prenait souvent, spécialement à la belle saison, où l'air chargé d'odeurs de fleurs et de foin m'était aussi doux à sentir que funeste à respirer. Mais c'était là piètre excuse. Si je devais défendre ma cause devant quelque tribunal suprême, je ne mentirais pas en disant que j'étais surtout incapable de faire mieux que ce que déjà j'avais fait. J'aurais pu écrire bien des choses encore, laisser le nom de Dufon sur quelques recueils de messes ou de motets, mais la musique avait changé en 10 ans. Il se faisait en Italie, en Espagne même, des choses nouvelles et bien belles que je me sentais incapable d'imiter. L'ai-je dit déjà? J'ai toujours été homme de labeur plutôt que de génie. D'ailleurs, le cours des événements allait m'échapper. On le devine, Alonso de Contreras, de retour à Madrid après son mariage contrarié, allait en être la cause, ou du moins l'occasion. Quand Contreras me retrouva à Madrid, j'étais occupé à travailler à l'orgue de l'Alcazar, ou plutôt, car je me flatte en prétend que j'y travaillais, disons que je m'y occupais et que je tenais compagnie à Jean Brébos qui, lui, y travaillait. Brébos avait été surveillant des petits chanteurs du temps où j'en étais, mais était surtout merveilleusement habile à la facture de l'orgue. Quand d'autres s'étaient perfectionnés au jeu d'un instrument, ou comme moi, à la composition de la musique, lui s'adonnait à ce métier rare qui requiert à la fois l'habileté de l'artisan et l'art du musicien. Il l'avait appris peu à peu d'autres maîtres, trouvant la façon du menuisier, celle du fondeur de métaux, cherchant la juste sonorité d'un tuyau de bois. Il s'en trouvait heureux, le travail manuel chasse l'ennui tout en laissant l'esprit libre, et quand après des mois ou des années de travail il achevait un instrument, c'était un peu comme un enfant qu'il lançait dans le monde, un enfant dont il était fier et où il se reconnaissait. Il jouissait d'une grande liberté et d'une aisance matérielle qu'avaient peu de musiciens à la cour. Qui peut dire en effet s'il faut 100 ou 200 réaux pour rendre le souffle à un instrument, 6 mois ou 1 an pour refaire les jeux d'un orgue en province? Il voyageait beaucoup depuis que sa première commande l'avait mené à Tolède, où il avait refait celui de la nef de San Cristobal. Il avait conduit jusqu'à Saragosse des instruments dont il construisait l'essentiel à Madrid, préférant la commodité de son atelier. C'est lui qui m'a fait faire cette petite épinette que je possède encore aujourd'hui. Brébos était d'humeur égale et de commerce agréable, quoique modérément causant. Il était plutôt gros, presque entièrement chauve. Semblant prédisposé à l'un et l'autre de ses traits, je me disais que je devrais lui ressembler à son âge. Je passais volontiers quelques heures en sa compagnie, et il m'occupait à de petits travaux, ne demandant nulle adresse particulière. C'est donc dans cet atelier que Contreras me trouva, étonné sans doute de me voir un outil à la main. À la réflexion, il aurait été moins ébahi de me surprendre aux fosses d'aisance, tant le travail manuel passe pour avilissant aux yeux d'un gentilhomme. « Ah, Juan !» il avait hispanisé mon nom. « Je suis aise de te retrouver. Viens, laisse tout cela, il faut que je te raconte. » Sans attendre un instant, il me promena par la grande rue et la rue du Lion, gesticulant et arpentant le haut d'un pavé que nul n'eût songé à lui disputer, et me contant par le menu la dernière aventure qu'il n'avait évoquée dans sa lettre, celle-là même qui avait été fatale à son éphémère et adultère épouse. Il était un peu perdu, tombé une dernière fois sur le derrière, au bas de cette échelle de la fortune qu'invariablement, en sa vie, il descendait aussi vite qu'il l'avait gravie. Que pouvait-il faire sinon solliciter un nouveau brevet de capitaine et repartir là où on l'enverrait, aux Indes peut-être? On ne peut me refuser cela. J'ai envoyé au roi mon derrotero, cet itinéraire des mers du Levant. Il n'en existe pas de pareil, c'est un trésor pour la marine et on me doit ce brevet. Nul ne connaît comme moi les mers de l'ancien monde. D'ailleurs, je les connais trop et je veux voir celles du nouveau. C'est là qu'on trouve de l'or. J'en ramènerai assez pour vivre tranquille le restant de mes jours avec quelques fillettes qui veillera sur moi et que je pourrai surveiller. Vois-tu, j'ai compris ceci. Si les deux choses qu'il faut avoir à l'œil, c'est bien l'or et les femmes, sans quoi ils s'en vont faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Cependant, les mois passèrent, et à mesure, ce programme alléchant semblait avoir du plomb dans l'aile. Contreras avait beau envoyer des suppliques à sa majesté, courir le cabinet de ses ministres, il se trouvait partout des réponses fuyantes et des regards fermés. Il me vint à l'esprit que cette apparente disgrâce pouvait être liée à l'aventure du village morisque dont Fray Renoimo m'avait parlé. Je m'en ouvris auprès de lui. Il en fut abasourdi. « Comment, tu connais l'affaire d'Ornacos ?» Je ne t'en ai jamais parlé, mais si toi, curé, tu sais cela, la cour entière doit être au courant. Ah, c'est cela, bien sûr, voilà pourquoi on me renvoie ainsi d'Hérode à Pilate. N'exagérons rien, il se fait que je sais certaines choses, mais cela ne veut pas dire que tout le monde les connaisse. D'ailleurs, j'ignorais même le nom que tu cites. Qui est cet Ornacos? Ah, personne, c'est le nom d'un village. Que sais-tu d'autre? Je sais que tu as été payé de ton silence après cette algarade que tu as eue avec ton capitaine. « Mais comment peux-tu savoir ça aussi ? Ah, je vois bien que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû écouter ce maudit commissaire des guerres. Je devais dévoiler cette conspiration sur le champ et exterminer ces morisques. Je passerais pour un honnête chrétien, tandis qu'en me taisant, je fais maintenant figure d'hérétique. »« Honnête chrétien, peut-être, mais pendu, puisque tu n'aurais pas eu ton silence à monnayer. Cela ne t'avançait guère. » Je pouvais jouer aux fins politiques sur le peu que m'avait appris le franciscain. Sans doute, Contreras pouvait-il passer pour un modéré, et ce parti avait-il pour l'ordre puissants appuis. N'empêche que, si on avait peur qu'il ne parlât, c'est qu'il y avait de bonnes raisons pour cela. Les événements confirmèrent mes craintes. On apprit bientôt que le fameux commissaire de l'affaire Ornacos venait d'être arrêté par l'Inquisition comme complice des morisques. Pourquoi donc avait-on attendu plus de 3 ans pour le faire? Fray Hieronimo ne put me répondre et se montra soucieux. 3 ans, cela n'est rien, cela pourrait être 10 ou 20. Non, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ait arrêté cet homme maintenant. Cacher la menace d'un soulèvement de village, c'est grave pour un seul homme, mais ce n'est que peu de choses à l'échelle de l'État. On savait ce qui s'était passé depuis longtemps sans doute, et on n'a rien fait. C'est comme si on gardait cela comme une escopette à décharger au bon moment. Pourquoi aujourd'hui? Ne peut-on savoir ce qu'on veut à cet homme, ce qu'il a fait arrêter? N'y comptons pas. Les prisons de l'Inquisition sont bien closes, celui qui y est enfermé n'existe plus pour le monde. Je peux m'informer de beaucoup de choses, mais pas de celle-là. Les procédures du Saint-Office sont secrètes, et nul n'a jamais connu le nom des dénonciateurs ni des témoins. Même les sentences ne sont rendues publiques que quand on en a prononcé assez pour en faire un auto-da-fé. L'inquiétude me prenait. Contreras était au cœur de l'affaire, et j'étais son ami. « Il faut voir qui on vise. Sans doute ton Contreras est-il tombé là-dedans par hasard, et n'a-t-il rien fait d'autre que de se taire, mais cela même peut être un crime. On peut viser le juge qui l'a acquitté, ou ceux, s'il en est, qui ont dicté cette sentence, ou alors, c'est vers nous que mène cette piste. Tu es l'ami de Contreras, je suis ton ami. Bien sûr, le lien est ténu, et puis, nous sommes religieux, c'est moins facile. Ben, d'autant que nous n'avons rien à voir avec cette histoire d'armes cachées. » Sans doute, mais on a vu suivre dans les cabinets de l'Inquisition des pistes bien plus vagues encore. Qui veut la fin veut les moyens. Mais que faire? Nous, rien. Contreras, par contre, doit disparaître n'importe où, pourvu qu'on ne le retrouve pas. C'est le fil qu'il faut couper. Mais on n'a pas besoin d'un fil, comme tu dis, pour aller jusqu'à nous. Ah, détrompe-toi, l'Inquisition peut forcer des aveux, mais elle respecte toujours ses propres procédures. Tu ne seras pas inquiété si l'on ne peut te mettre en cause dans les règles. Tu n'as, disons, d'autres liens avec l'hérésie que celui-ci. Ben, non, bien sûr. Hormis peut-être vous-même. Le franciscain ne releva pas l'ironie et continua comme réfléchissant à haute voix. Évidemment, c'est vieux, mais il y a aussi cette affaire de la mort de Philippe Roger. Vous aviez surpris un secret, toi et ton frère jumeau. Je n'ai plus vu depuis des années. Comment s'appelait-il encore? Nicolas Dupont, et ce n'est plus mon ami. Tiens donc. Bien sûr, l'affaire Perret, c'était purement politique. Si votre maître n'est pas passé de bon naturel, ce n'est pas le fait de l'Inquisition. Elle savait tout cela, évidemment, mais ce ne sont pas là ses méthodes. Jamais elle ne tue ailleurs que sur un bûcher après un bon procès pour l'exemple. Heureusement, Philippe III n'a pas repris à son compte la haine de son père. Allons, ne t'inquiète pas trop, fais ta musique, dis ta messe, ne te mêle de rien, et n'oublie pas ce que je t'ai dit pour ton capitaine. Je ne dormis guère cette nuit-là, en proie à la première véritable angoisse de ma vie. Dès le lendemain, j'allais trouver Contreras, et lui dressait un tableau très noir de sa situation en homme très au courant des choses. Il ne serait jamais capitaine, son juge avait été arrêté et il allait suivre sans doute. Tu m'as dit un jour que tu en avais assez de cette vie et que tu voulais te retirer du monde, eh bien, le moment est venu. Ah, ne le dis pas pour rire, j'y pensais bien sérieusement. Tu es mon ami, je te fais confiance. Sais-tu où il vaut mieux que j'aille? Là encore, je consultais Hieronymo. Il hésita, pensant peut-être qu'il valait mieux que ni lui ni moi ne connaissions cette retraite. Finalement, il en jugea autrement. En Aragon, dans la ville d'Agreda, notre ordre a un couvent. Non loin, sur les pentes du Moncayo, se trouvent les ruines d'un petit ermitage. Dis-lui que ce serait le bon endroit. La justice ne pourrait pas l'atteindre aussi facilement qu'en Castille. L'endroit est perdu et nous pourrons l'avoir à l'œil. Alonso de Contreras montra, pour se faire ermite, le même zèle qu'il avait eu en étant soldat. Il acheta sans tarder les instruments nécessaires à son nouvel état, un cilice, une discipline, de la bure dont on fait les frocs, un cadran solaire, une tête de mort et force livre de pénitence. Ainsi équipé, il prit la route et s'enfuit finir ses jours dans la solitude au matin d'une dernière nuit que nous passâmes ensemble de moins austère façon. Il ne se passa rien de neuf jusqu'à quelques semaines de là. C'était au cours de la semaine sainte de l'an 1607 et je disais la première messe dans la petite église de San Pedro. C'était là d'ordinaire ma première tâche de la journée et je m'en acquittais dans une chapelle du palais ou dans cette paroisse des environs quand du moins la cour était à Madrid et non dans la campagne de Castille. Il y avait peu de monde à ces offices et ce matin-là était plutôt l'exception. Je remarquai parmi les fidèles un autre religieux. Probablement un jésuite qui suivait l'office comme les autres. Cela n'arrivait jamais, et je me dis qu'il n'était pas là par hasard. En effet, après l'ité mise à est, il vint me trouver, et m'aborda fort courtoisement, en langue française, quoique avec un fort accent espagnol et des tournures assez maladroites. Il se présenta comme le père Cano de la Compagnie de Jésus, et se désola de ne pas parler mieux une langue qu'il avait jadis apprise à Paris, mais très peu pratiquée depuis. Nous poursuivîmes donc en espagnol, et je n'étais pas mécontent de marquer cet avantage qu'est toujours la maîtrise de la langue de l'autre. « Connaissez-vous le royaume de France ? » me demanda-t-il. « Non ? C'est bien dommage, mais vous êtes jeune, vous aurez encore tout le loisir d'y aller. Beaucoup de pères de notre ordre s'y sont formés, sur les traces d'Ignace de Loyola, qui y a aussi étudié, mais c'était un autre temps. » Savez-vous que le Parlement de Paris nous a fait expulser en 1594 tout comme ceux de Bourgogne et de Normandie? Tout cela sous le prétexte qu'un de nos écoliers avait égratigné le roi de son poignard dans la chambre de sa maîtresse d'ailleurs où il s'était introduit. Tous nos pères ont été conduits hors de la ville par un huissier dans des charrettes comme des malfaiteurs et leur procureur sur un bidet. Je lui avouai que j'avais bien entendu parler de quelque chose, mais que la situation comparée des jésuites dans les différentes provinces françaises n'avait pas été jusque-là mon souci premier. Il poursuivit donc, et je me demandais toujours où il voulait en venir. Heureusement, cette mesure a été rapportée voici 2 ans. Le roi de France nous aime assez, mais il est entouré de mauvais chrétiens, et nous ne sommes souvent qu'à peine tolérés. Que voulez-vous, on ne peut pas servir à la fois Dieu et le diable, et la conversion de cet Henri IV ne m'a jamais paru vraiment sincère. Mais nous parlons, et vous vous interrogez sans doute sur l'objet de ma démarche. Je l'avoue, concédai-je, pensant que jusque-là, c'est plutôt lui qui avait parlé que nous. Pourrais-je être en quelque chose utile à votre maison ? Ben, vous le pouvez, en effet. Vous avez, je crois, quelques talents que nous voudrions solliciter. Ah, en fait de talent, je n'ai guère que celui de la musique pour lequel on m'emploie. S'il s'agit de composer quelques pièces sacrées pour l'un de vos offices, ce serait un honneur pour moi. Il eut un instant l'air surpris, mais nullement pris de court. C'est tout à fait cela, en effet, une musique. Mais vous êtes trop modeste, vous avez d'autres qualités que celles de votre art. Vous occupez à la cour une belle position, preuve de la confiance qu'on a en vous, confiance certainement justifiée. Depuis le temps, vous devez être sans doute au courant de bien des choses. D'ailleurs, vous êtes prête, vous avez des relations, bonnes et moins bonnes, n'est-ce pas ? Vous parlez le français comme un français et le castillan comme un espagnol, cela fait bien des talents. N'avez-vous pas envie, que sais-je moi, de voyager par exemple, de voyager autrement qu'avec vos chantres et vos musiques ? Tenez, de revoir votre famille, de visiter vos amis. Je gage que vous n'êtes pas retourné aux Pays-Bas depuis que vous êtes parti. Combien d'années au juste ? 22 ans. 22 ans ! Allons, venez me voir un de ces jours, nous parlerons de tout cela. Que diriez-vous demain soir ? Vous terminez, je crois, vers 5 heures, votre travail avec les petits chanteurs. « Qui est-il, ce père Cano ? » demandai-je à Fra Hieronimo dès que je pus le voir. « Le connaissez-vous ? » ?»« Je sais qui c'est. Officiellement, il n'est rien. En fait, c'est un personnage dans la compagnie. Tiens, si je craignais de pécher par vanité, je crois qu'il a un peu la même position dans son ordre que moi dans le mien. Mais que me veut-il ? Ça, c'est autre chose. » Somme toute, sa démarche est plutôt rassurante. Tu craignais de sérieux ennuis et, manifestement, on te flatte, on veut t'employer. Tu as bien compris cette allusion à tes moins bonnes relations. Il y a évidemment une nuance de menace. Avec le père Cano, comme avec tous les jésuites, tout est entre les mots. Il ne se découvrira pas davantage. Il t'a parlé de la France, ce n'est pas non plus par hasard. Je ne serais pas étonné qu'il veuille t'utiliser pour une mission dans ce royaume et te faire comprendre que tu n'as pas le choix. C'est bien calculé, s'il me fallait un espion là-bas, je ne trouverais pas meilleur candidat que toi. Ben, que voulez-vous dire, je n'entends rien à la politique. Justement, tu as un petit air naïf. Ah, merci. Excuse-moi, je me mets à parler comme le père Cano. Disons, innocent plutôt que naïf. Une allure en tout cas qui inspire confiance. Tu es établi comme musicien depuis toujours, connu à ce titre, le français est ta langue maternelle, et tu as une excellente raison de traverser le royaume du bon Henri IV, puisque ta famille est par-delà. Mais que diable puis-je aller faire dans ce pays ? Ah, comme tu sais, nous sommes en paix avec la France depuis bientôt 10 ans, mais cette paix n'en est pas vraiment une, et cessera dès qu'une des parties y trouvera avantage. Tiens, voici 2 ans, on a pendu à Paris un nommé Melarguez qui avait voulu nous livrer Marseille. Si l'affaire avait réussi, c'était de nouveau batailles et ravages. La querelle ne vient que de 2 choses. Le roi Henri fait la part trop belle aux Huguenots, et son principal ministre, ce Sully, ne rêve que d'abaisser l'Espagne. Nous soutenons évidemment le parti catholique, même si les gens qu'on y trouve ne valent souvent guère mieux que les autres. Ainsi s'est fait autour de la reine Marie une coterie que mènent des serviteurs italiens qui lui font croire que le roi veut faire annuler leur mariage pour épouser une de ses maîtresses et faire de son fils un bâtard. Est-ce vrai ? Ben, le roi n'a sans doute jamais eu pareille intention, mais d'autres que lui ont certainement conspiré en ce sens, et sa principale maîtresse, Henriette d'Entragues, a été disgraciée pour ce motif. En tout cas, la couronne de France est très instable. On n'imagine pas à Madrid une sorte de parti français ou anglais qui comploterait contre le roi Philippe, et pourtant, c'est ce qui se passe à Paris. Est-ce donc une bonne cause que celle qu'on voudrait me faire servir ? C'est celle de ton roi et celle de l'Église. Tu sais que je n'ai guère d'amitié pour les jésuites, mais en l'occurrence, c'est notre cause qu'ils servent en France, outre la leur, évidemment. Je revis le père Cano le lendemain, comme prévu. Je suppose que vous avez parlé de notre entretien avec le père Hieronimo, me demanda-t-il après les politesses d'usage. C'est un homme de grande intelligence qui aura sans doute deviné ce que nous espérions de vous. Il me décrivit par le détail l'état des 2 royaumes. la vermine et la canaille des soi-disant réformés qui gangrenaient celui de France davantage encore que les maranes et mauvais morais se gâtaient le nôtre. Somme toute, son avis ne différait guère de celui du frère mineur sur la situation à Paris. Le père Gontier est notre supérieur à Paris. Si vous acceptez de nous aider, vous le rencontrerez et lui remettrez des documents. Des documents, n'est-ce pas dangereux ? Un peu, sans doute. Je ne vous cacherai pas que tout le monde se méfie de tout le monde. Beaucoup de courriers sont interceptés et les agents étrangers ont été arrêtés. En tout cas, c'est moins hasardeux pour vous que pour nous qui sommes très haïs et surveillés. Mais rassurez-vous, ces documents ne seront que des musiques, et quoi de plus naturel que des musiques dans le bagage d'un compositeur. Vous connaissez cet artifice, je crois. Il a fait ses preuves tout en restant inconnu des autres gens que vous et moi. Je me mordis les lèvres. Cela donc lui était connu. Il était inutile de prendre des airs innocents. Des documents, est-ce tout ? Ma foi, oui, et ce n'est pas si mal. Ils sont d'importance car le parti espagnol manque singulièrement de voix sûres pour les recevoir à Paris. Mais ce n'est peut-être qu'un début. Observez les gens, inspirez confiance, faites-vous des relations. Encore une chose, pour le voyage, vous aurez avec vous un compagnon. C'est un frère attaché à notre ordre qui se nomme Inigo. Cela vous portera bonheur, car c'est là le prénom de notre vénéré maître Loyola. Vous pouvez vous fier à lui en toutes choses et disposer de lui comme il vous plaira. Il aura de l'or en suffisance, vous en aurez aussi. Pour quitter la chapelle, il me faut licence du roi. Ne vous inquiétez pas de cela, vous avez quelques problèmes de santé, je crois. Le souffle, n'est-ce pas ? Eh bien, quoi de plus naturel que de demander à changer d'air pour vous remettre ? Sa Majesté vous doit bien cela, elle que vous servez si bien et depuis tant d'années. Et quand rentrerai-je en Espagne ? Eh bien, si tout se passe heureusement, passez donc l'hiver parmi les vôtres et mettez-vous en route au printemps. Là, il sera inutile de revenir par la France. Prenez la route d'Espagne, par la Franche-Comté, la Savoie et le Piémont. Pour cela, comme en toute chose, faites ce qui vous semblera bon et, avant tout, soyez prudent. Je craignais d'être le jouet de forces qui me dépassaient. Qui pouvait m'assurer qu'on m'avait tout dit, que j'étais autre chose qu'un appât, un pion dont le sacrifice était arrêté d'avance sur cet échiquier dont je ne connaissais pas les règles. Somme toute, cette mission de transporter des documents, fût-ce sous forme de musique, me paraissait un peu mince pour justifier un tel voyage. Ce n'était pas entièrement vrai, car j'appris plus tard à quel point étaient peu sûrs les courriers qu'on employait ainsi. On ne comptait pas les messages interceptés, les espions arrêtés. Même le secrétaire d'un ministre avait été retrouvé noyé. Je me promis d'être sur mes gardes, de ne voir personne sans que ce fût nécessaire. Mathieu Romarin me regarda d'un drôle d'air quand je lui demandai mon congé. « Mon vieux Jean, tu es bien gentil de me le demander à moi, ce congé, mais c'est plutôt inutile, je l'ai déjà reçu, signé de la main du roi. » Et il me tendit un document frappé du sceau de Philippe III, où était dit qu'en raison de mes infirmités et après tant d'années passées à son service, j'étais autorisé, sur ordre des médecins, à aller respirer l'air de mon natal pays. On ne pouvait mieux dire, l'air décidément ici risquait de nuire à ma santé. « Ce n'est pas vraiment un congé, n'est-ce pas ?» Puis, voyant mon embarras, « Ne me dis rien, surtout si tu ne peux rien dire. Moins j'en saurai, mieux je me porterai. Du moins reverras-tu le pays, ce qui ne me sera jamais donné, sans doute. Tu te souviens, quand nous pleurions nos bois et nos ruisseaux en venant sur les chemins de ce pays, nous ne serons bientôt plus que trois. » El Capitan faisait allusion aux 13 petits chanteurs flamands arrivés en 1585, et dont il ne restait plus à Madrid, outre lui et moi, que Nicolas Dupont et Philippe Dubois. Allons, veille à toi et reviens-nous bientôt.